Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si la France est à l'origine du système métrique, la définition du mètre est liée à la longueur du méridien terrestre. Il fallait donc déterminer avec précision cette longueur. Une première expédition menée en 1791 par Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain fut menée après avoir établi le mètre officiellement en 1799. Et puis le projet de mesurer la méridienne de France reprit en 1806 avec le but de le prolonger jusqu'aux Baléares. Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui à la méridienne de France, ouvrage de Pierre Bayard. Pierre Bayard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy au cœur de l'Institut de France. Je le disais à l'instant, vous êtes l'auteur de La Méridienne de France, paru aux éditions de L'Harmattan en 2008. Un ouvrage d'ailleurs préfacé par Jean-Claude Péquer de l'Académie des sciences. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes traducteur, enseignant, vous avez enseigné dans les alliances françaises. Première question, Pierre Bayard, comment vous êtes-vous intéressé aux écrits de François Arago et de Jean-Baptiste Biot, dont je rappelle tous les deux qu'ils étaient également membres de l'Académie des sciences?
Eh bien, c'est plutôt sur François Arago que tout a commencé, grâce à sa venue à l'âge de 20 ans sur une petite île où j'ai vécu également à l'âge de 20 ans, l'île de Formentera. Et après y avoir vécu quelques temps, j'ai vu dans un tout petit guide touristique, un des premiers qui existait sur cette île, que son nom était là, en compagnie de celui de certains Biot, d'un certain Rodriguez et d'un certain Chex, et que ce monsieur Arago, après quelques vérifications, s'est révélé être François Arago, et qu'il avait 20 ans. Donc ce fait m'a intéressé, j'ai su qu'il avait passé un hiver sur le plateau de cette petite île. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à sa présence sur cette île, donc à son voyage, à cette expédition scientifique.
Donc la méridienne de France. Avant que François Arago et Jean-Baptiste Biot prennent les choses en main pour cette expédition en 1806, l'histoire commence avec Méchain. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur Méchain pour nous le présenter en quelques mots?
Alors Pierre Méchain donc, est le prédécesseur de cette expédition. Arago et Biot sont chargés, se proposent de mener à bien l'expédition projetée par Méchain. Méchain avait commencé à envisager, s'était rendu compte que la méridienne de France, c'est-à-dire le méridien de Paris, prolongé vers le sud, touchait les Baléares et que si on réussissait par triangulation à joindre les Baléares au continent, on pourrait prolonger de 3 degrés le méridien de Paris, dont on avait déjà mesuré 9 degrés entre Dunkerque et Barcelone, qui, cette mesure ayant donné, comme vous l'avez dit, naissance au mètre et au système métrique. Donc, nos protagonistes s'embarquent pour l'Espagne afin de réaliser le projet du défunt Méchain, le pauvre Méchain qui est mort en plein travail, de fièvre, on appelait ça les fièvres tierces à l'époque. C'est le paludisme, en fait, qui sévissait chaque été en Espagne encore, en particulier dans les ports et sur la côte où tous les marins et tous les bateaux étaient obligés de passer et où passent d'ailleurs nos physiciens et astronomes de 1806.
Alors quel était l'intérêt pour la France de nouveau projeter une nouvelle expédition en 1806, 2 ans après la mort de Méchain?
1806, on est en plein empire, Napoléon triomphe, est à Iéna, gagne des batailles et signe l'ordre de mission en un temps record au mois de mai 1806 à la demande de l'Académie des sciences. C'est un oui immédiat de Napoléon qui est naturellement intéressé à avoir 2 envoyés, on pourrait dire 2 hommes rationnels et intelligents, capables d'être à l'écoute un peu de l'opinion espagnole qui intéresse beaucoup l'empereur. du fait de passer à Barcelone, à Valence, dans les grandes villes, de rencontrer des gouverneurs, des diplomates, même de rang inférieur, leur permet de renseigner, on peut dire, d'accumuler des renseignements. Alors, ce n'est pas de l'espionnage directement, ils ne sont pas envoyés pour faire de l'espionnage, ils sont chargés de faire une mission très pointue d'astronomie et de géodésie. Mais il est certain que quand Biot rentre à Paris pour la première fois en 1807, il passe dans les bureaux du ministère de l'Intérieur, très certainement.
Oui, parce que, donc, effectivement, il y a la mesure de la méridienne. Vous citez également dans votre ouvrage des propos consacrés aux graines de coton, par exemple.
Toute mission et expédition scientifique de l'époque. En même temps, il y en a une qui s'est faite au Portugal. Tous les hommes de science s'intéressent à toutes les sciences à l'époque. Un astronome, Biot lui-même, s'intéresse à la botanique, il découvre une plante, il l'observe, il fait des études sur les poissons, sur de quelle manière les poissons respirent, montent et descendent dans l'eau, par exemple. C'est typique de la science de l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là, disons, qu'elle commence à se spécialiser réellement. Donc, le Muséum d'Histoire Naturelle charge tout voyageur, même si c'est un astronome, de ramener diverses choses. Et on a trouvé à Ibiza qu'il y avait des plantations de coton, extrêmement rares en Espagne à l'époque. Et en Europe, bien entendu, il y avait deux endroits seulement en Espagne, et Ibiza en est un. Il faut de l'eau pour arroser le coton. La production était petite. Il y avait de l'eau à Ibiza beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais ça poussait. Donc, le ministère charge Jean-Baptiste Biot, à son retour au printemps de 1807, de ramener des semences de coton. On s'intéresse aussi aux abeilles, parce qu'un précédent voyageur avait dit qu'il y avait un miel formidable aux Baléares. Donc, M. Bosque, du Muséum d'Histoire Naturelle, dit « Pourriez-vous nous rapporter quelques essaims d'abeilles ?»
On parle bien sûr d'Arago et de Biot, mais il y a un troisième personnage qui intervient dans l'histoire, qui est un mathématicien espagnol qui s'appelle Rodriguez.
José Rodriguez. Rodriguez. C'est mon personnage favori.
Pourquoi a-t-il eu à vos faveurs ?
C'est un mathématicien très brillant, un des premiers mathématiciens, on pourrait dire indépendants, qui a fait des mathématiques pures, autres que celles qu'on fait habituellement pour devenir médecin ou officier de marine. Il a une vie difficile, il a une vie politique marquée côté progressiste, on pourrait dire même gauche. Il a voté pour la Constitution 1812 après.
Comment il rejoint justement Arago et Biot dans l'expédition ?
Alors il est élève à Paris, il est élève de Jean-Baptiste Biot au Collège de France. Et Jean-Baptiste Biot le repère comme un de ses meilleurs élèves. Un élève qui parle espagnol.
Oui, j'allais dire traducteur aussi potentiel.
Donc, qui va se révéler tout à fait décisif pour accompagner l'expédition. Et il se trouve qu'il avait déjà une formation tout à fait suffisante en astronomie. Et dès le début, il devient un collaborateur de premier ordre pour cette, on pourrait dire, petite mission, mais tout de même. Alors lui aussi passe un hiver à Ibiza dans les montagnes tout à fait sévères, on pourrait dire. Habitant dans une petite maison avec des matelots, les matelots du bateau donc, qui les accompagnent aux Baléares. C'est un personnage assez intéressant qui m'aurait plu de... J'aurais aimé lui faire raconter l'histoire, disons. Ce que nous avons dit d'autre part, que ce livre ressemble un peu à une thèse, disons.
Oui, en préparant cette émission, effectivement.
J'aurais aimé peut-être lui faire raconter l'histoire d'une manière, non pas romancée, mais sous forme peut-être de chronique ou de journal.
Poursuivons, si vous voulez bien. Alors, pareil, en préparant cette émission, vous m'aviez bien précisé que c'était un ouvrage peut-être pas spécifiquement scientifique, mais qui racontait une aventure, qui est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, l'aventure de la prolongation de la Méridienne jusqu'aux Baléares. C'est une aventure avec tout le contexte politique, historique que vous resituez. Mais intéressons-nous quand même peut-être à ce fameux principe de la triangulation qui permet de pouvoir établir cette méridienne. Quel est ce principe de triangulation ?
Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un principe, il s'agit d'une technique.
Alors, simplement. Quelle est la technique de la triangulation ?
Alors, la technique de triangulation était déjà bien connue des géodésiens et des astronomes de l'époque, puisque justement, l'arc de méridien de Dunkerque à Barcelone, d'où a été extrait le mètre, avait été mesuré de cette manière. C'est-à-dire que on fait des triangles géodésiques, c'est-à-dire on prend des stations, ça peut être des points élevés sur une colline ou sur un clocher ou sur une tour dans la campagne. Il faut que trois stations soient en vis-à-vis. On établit des signaux à chaque point déterminé et alternativement à chaque point, on mesure l'angle que forment les deux autres signaux. À partir de là, c'est de la trigonométrie. On pourrait dire que c'est relativement simple, bien que ce soit un peu délicat à expliquer en détail. Mais en alignant comme ça, du nord au sud, le long du méridien, on est parvenu à mesurer par la triangulation toute la longueur de cet arc. Dans la prolongation au Baléares, il s'est agi de faire un très grand triangle. Et c'était le triangle le plus grand qui était jamais tenté depuis les débuts de la géodésie moderne, on pourrait dire. Il s'agissait de joindre donc l'île d'Ibiza, la plus proche du continent et la plus proche du méridien de Paris, de la joindre au continent par un très grand triangle, dont l'un des côtés mesurait 160 km.
Avec, j'imagine, des anecdotes en ce qui concerne ces points de réverbération pour qu'il y ait ces impacts.
Bien sûr, il fallait. Alors là, les signaux étaient non pas visuels, mais enfin étaient visuels, mais étaient nocturnes. C'est-à-dire, c'était des signaux lumineux qui étaient faits avec des sortes d'énormes, ce que nous appelons des lampes à pétrole, mais enfin une batterie de grosses lampes comme ça qui faisaient un point lumineux dans l'obscurité, qui était observé avec une longue vue. Donc à 120 ou 140 km de distance, ce point ne pouvant être visible de jour. Il n'y avait que la nuit que ce point lumineux pouvait... Alors ce point lumineux pouvait être confondu avec une étoile. C'est ce qui se passe à un certain moment, ce qui fait que ces mesures prennent des semaines et des semaines pour être réalisées.
Pour ne pas dire des mois.
Oui, parfois des mois. Cette triangulation, cependant, s'effectue. Une fois que ce grand triangle est fait, Jean-Baptiste Biot dit que l'essentiel est... Il a la certitude que l'opération pourra être menée à bien.
Donc, cette mesure se poursuit jusqu'en 1808. Nous reviendrons au 17e triangle. Mais évoquons peut-être le contexte historique. En lisant votre ouvrage, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en dehors de ces questions d'instabilité politique, révolutionnaire. Pour autant, il y a quand même... la vie à côté semble assez, pour le coup, révolutionnaire. Est-ce que c'est une impression fausse de ma part ou est-ce que réellement il semblait un peu
Alors,
dans la nature à côté
L'histoire de l'Espagne et l'histoire de la France s'entrechoquent en ces années, en particulier l'année 1808. L'Espagne est l'allié de la France depuis longtemps déjà. Et des velléités de la part du gouvernement de Godoy à ce moment-là font que l'Espagne a envie de se joindre à la coalition anglaise contre l'empereur Napoléon. Donc il y a une sorte de revirement d'alliance ou un début de revirement d'alliance qui crée dans les villes des menaces. Quand Arago se trouve à Valence... tout à coup, des bruits courent que la France est vaincue en Allemagne, alors que pratiquement le même jour, la victoire d'Iéna a lieu. Et les nouvelles, toutes nouvelles à l'époque, par exemple entre l'Allemagne et l'Espagne, met un minimum de 15 jours. Je crois que c'est une des choses les plus intéressantes qu'on peut apprendre quand on étudie cette époque. C'est qu'aujourd'hui, s'il se passe quelque chose à Berlin, on le sait pratiquement en temps réel, la radio va vous le dire immédiatement. Si le roi est assassiné à Berlin, au 18e ou au 19e siècle, on envoie un messager à cheval porter la nouvelle où que ce soit, dans les premières villes, dans les capitales voisines. Il y en a un qui est envoyé à Paris, certainement, bientôt, dans la soirée. ce cheval va courir à une vitesse qui est celle de la vitesse de la radio aujourd'hui, on pourrait dire. C'est-à-dire que la nouvelle sera transmise en plusieurs jours.
Et Bio et Arago étaient devenus persona non grata en Espagne ou pas à cette époque de revirement de situation?
Ils ont donc, au moment d'Iéna, il y a eu une très sérieuse alarme. Mais donc, justement, la nouvelle vient contredire, la victoire d'Iéna vient contredire toutes les rumeurs qui couraient sur la défaite française. Et font que Arago, relativement discrètement, peut continuer son opération. Jean-Baptiste Biot s'est embarqué au Baléares déjà, et il va passer tout son premier séjour, ce terrible premier séjour de 10 jours, sans savoir exactement ce qui se passe. Et là aussi, il y a un passage un petit peu dramatique, on pourrait dire, dans cette histoire. En plus, il est au bord du naufrage à son retour, il est pris dans une tempête, et il est jeté avec le capitaine du bateau sur un petit îlot désert entre Ibiza et Formentera, qui crée encore plus d'inquiétude pour les autres membres de l'expédition qui l'attendent sur le continent.
Revenons à la 17e triangulation, puisque donc il y avait 17, ça s'est fait en 17 parties, 17 triangles.
Oui, les 17 triangles se sont donc étalonnés, on pourrait dire, de Barcelone jusqu'à l'île de Majorque, pour créer cette prolongation de la méridienne de France, du méridien de Paris. Le 17e, c'est le dernier, on pourrait dire, celui qui va joindre l'île d'Ibiza, Formentera et Majorque. Celui qui voit la conclusion, on pourrait dire, de cette aventure.
Ces deux années d'aventure.
De ces deux années d'aventure qui aboutissent à Palma de Majorque par, en pleine, là on peut dire révolution, puisque la révolution se déclare contre l'entrée des troupes de Napoléon en Espagne, quand... les Espagnols, en fait, ont conscience de la trahison, on pourrait dire, de Napoléon vis-à-vis de l'alliance de l'Espagne, puisqu'en fait, il est en train de s'approprier tout au moins le gouvernement de Madrid. Il est en train de faire tomber la couronne du roi d'Espagne, y mettre son frère à la place. Et donc, tout cela crée des troubles graves en Espagne, à Valence. À Palma se crée une junte de gouvernement, donc anti-française. Et notre François Arago, qui est sur sa montagne en train de faire ses mesures, est accusé de faire des signaux pour favoriser...
De faire de l'espionnage, en quelque sorte. En
tout cas, favoriser l'entrée des troupes françaises. Donc, on se lance à sa recherche, à sa poursuite. Et il se retrouve en prison. Non pas qu'on l'enferme en prison, mais le gouverneur veut bien l'y mettre à l'abri.
Le protéger. Mais il le raconte dans Histoire de ma jeunesse, justement.
Oui, ça donne lieu, bien entendu, à un des grands épisodes de ces mémoires.
Un peu rocambolesque, d'ailleurs, la manière, le ton de l'écriture.
Et alors, on a célébré au mois de juin, il y a donc quelques semaines,
en mois de juin 2008.
Le bicentenaire de ces événements. Sur l'île de la Dragonera, donc, où passe le méridien de Paris, on a été installé une plaque ainsi que la ligne dans une pierre très belle dans l'alignement du méridien qui va commémorer pour assez longtemps, je pense, la présence de ce jeune physicien français dont on ne savait pas grand-chose encore mais qui désormais est un grand héros national de Majorque et des Baléares, on pourrait dire.
Alors, pour terminer cette émission, puisque nous arrivons au terme de notre émission au fil des pages, que sont devenus ensuite ces trois personnages Bio, Arago et Rodriguez?
Eh bien, écoutez, tout le monde le sait, sauf peut-être en ce qui concerne Rodriguez, puisque c'est un personnage qui a continué sa carrière en Espagne. Il est devenu directeur, comme François Arago en l'occurrence, de l'Observatoire national de son pays. Il a été directeur de l'Observatoire de Madrid. Il a participé à de nouvelles mesures du même ordre en Angleterre avec le colonel Mudge, auquel ont participé aussi Jean-Baptiste Biot, c'est-à-dire prolongation du même méridien, mais cette fois vers le nord, en collaboration avec l'Angleterre, avec laquelle on était désormais en paix. C'était 1813, 14 ou 15. François Arago a bien entendu a été reçu à Paris avec les plus grands honneurs. Il est entré à l'Académie en 1809.
Oui, il avait 23 ans.
À l'âge de 23 ans, le plus jeune académicien. Et la grande carrière que nous connaissons par la suite de professeur, d'enseignant et de directeur de son observatoire, où il a vécu toute sa vie. Il faut citer, parce qu'on le connaît assez mal, il faut citer la participation de Jean-Baptiste Biot aux travaux de Pasteur, de Louis Pasteur. Biot a été l'initiateur des premières découvertes de Pasteur, qui ont donné lieu aussi au tout début de sa carrière. Et il en a été de tout temps reconnaissant à son professeur Biot. On pourrait dire que ces messieurs, disons-nous, donnent une certaine idée de ce qu'était la science de l'époque, un peu touche-à-tout, mais enfin, c'était une science aussi où la collaboration entre les nations avait aussi un sens.
Pierre Bayard, je redonne le titre de votre ouvrage, La Méridienne de France et l'aventure de sa prolongation jusqu'au Baléares, paru aux éditions de l'Harmattan en 2008, une préface de Jean-Claude Péquer. Vous ne nous avez rien dit sur Jean-Claude Péquer, peut-être que vous souhaitiez rajouter un petit mot sur lui.
J'ai connu Jean-Claude Péquer par correspondance il y a assez longtemps, au tout début de mes recherches sur ce travail. Il était alors le président de l'Association des Amis de François Arago. Et c'était donc vers lui que je m'étais adressé pour avoir les premières introductions d'archives, recommandations ou conseils. Il m'avait dit « Allez-y, c'est un travail formidable. On n'a jamais étudié cette expédition au Baléares. Tenez-moi au courant de l'avancement de vos travaux », ce que j'ai fait environ 10 ans après. Et je lui ai fait par le même courrier mes remerciements et il a bien voulu préfacer cet ouvrage.
Et nous invitons nos auditeurs à prendre connaissance de votre ouvrage au cours duquel on peut lire les propos d'Arago, de Biot, de Méchin au cours de leur correspondance, des correspondances que j'imagine vous avez trouvées aux archives de l'Académie des sciences.
Bien entendu.
Eh bien merci Pierre Bayard de nous avoir rendu visite et puis à une prochaine fois pour une émission peut-être sur le même thème, mais cette fois-ci avec un comédien, Fernand Guillou. Merci beaucoup et à une prochaine fois donc pour une autre émission.
À une prochaine fois, je vous remercie.